Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
À l'occasion de la consécration de la ville et du diocèse de Toulouse au Sacré-Cœur de Jésus, le 16 octobre, nous nous intéressons aujourd'hui à cette dévotion qu'a-t-elle d'actuel ? Que signifie se confier au Sacré-Cœur de Jésus ? La dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, pratique surannée ou est-elle toujours actuelle ? Nous en parlons aujourd'hui avec le père Pascal Fagnier, prêtre de la communauté de l'Emmanuel et vicaire à l'ensemble paroissial Aucamville-Saint-Loup-Camas. Bonjour père.
Bonjour Isabelle.
À vos côtés François Duclos, vous appartenez à la même communauté et êtes ingénieur en aéronautique.
Oui, c'est cela, bonjour.
Merci de votre présence aujourd'hui dans Vivante Église. On va commencer par un grand bond dans le temps. Comment, dans l'Ancien Testament, la thématique du cœur est-elle présente, père Pascal Fagnier ?
On entend parler du cœur dès le premier livre de la Bible, dès le livre de la Genèse, au chapitre 6, si je me souviens bien. Il s'agit du cœur de l'homme qui fait le mal. Et du coup, cela afflige, cela irrite le cœur de Dieu. Donc c'est intéressant de voir que la Bible nous dit que l'homme a un cœur, ça c'est quand même rassurant.
C'est une première bonne nouvelle.
Une première bonne nouvelle, même si ce qu'il en fait n'est pas toujours. Hein. C'est le chapitre 6, c'est ça, de la Genèse, au verset 5. Je vous le lis parce qu'il faut toujours revenir au texte lui-même. Cette parole qui est la lumière de nos pas, la lampe de notre route. Le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que toutes les pensées de son cœur se portaient uniquement vers le mal à longueur de journée. Et au verset 6, le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, il s'irrita en son cœur. Dieu a un cœur.
L'homme a un cœur, Dieu a un cœur, et le cœur de Dieu s'irrite et blessé du mal que commet l'homme.
Voilà. Et du mal que pense, même avant même de le commettre, du mal, on parle des pensées de son cœur.
Oui. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il y a aussi dans un autre passage, peut-être Ézéchiel, on parle aussi du cœur de Dieu ? Je vous donnerai un cœur nouveau.
Qu'est-ce que je mettrai en vous un esprit nouveau. Ça, c'est heureusement la prophétie du Seigneur qui annonce son action envers nous, pour convertir notre cœur. Mais une autre prophétie où il parle de son propre cœur, quand il dit à David et au peuple de Dieu, « Je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur. » Donc toujours, au fond, une rencontre entre le cœur de Dieu et le cœur de l'homme, un cœur de Dieu toujours disponible et un cœur de l'homme qui a besoin de se convertir.
Oui. Est-ce que ce cœur de Dieu, on peut le mettre en relation avec d'autres éléments du corps, finalement ?
Et oui, Dieu n'a pas de corps. Nous avons un corps et il est bon, effectivement. On pourrait dire dans toutes les civilisations, on va associer les éléments, les mains, les pieds, à différentes attitudes. Et prenons la Bible, ou d'un point de vue culturel, même pour quelqu'un qui n'a pas une pensée biblique, il est évident que les mains, c'est une image de l'action. C'est les mains qui nous aident à agir. Et le sacrement de malades, l'onction des malades, on fait une onction sur les mains parce que justement, on est empêché d'agir par la maladie. La tête, le front, les expressions affronter, tenir tête, c'est à la fois la maîtrise, le combat, la direction. Pensons à cette parole du psaume qu'on applique à Jésus, mais aussi à vous et à moi. Au torrent, il s'abreuve en chemin, c'est pourquoi il redresse la tête. Donc la tête baissée, c'est l'homme humilié. La tête levée, c'est l'homme libre qui est maître de lui-même. Donc la tête, c'est la direction, les décisions. Les mains, c'est l'action. Les pieds, c'est évidemment... Bien évident, les pieds, c'est le mouvement, qu'ils sont beaux sur toutes les montagnes, toujours une citation de la Bible, qu'ils sont beaux sur toutes les montagnes, François complète la parole, les pieds...
Pied du messager qui vient, qui annonce la bonne nouvelle.
Voilà, qui annonce la bonne nouvelle. Donc c'est le mouvement. Et le cœur, qu'est-ce que ça pourrait être ? François, qu'est-ce que ça pourrait être le cœur ?
Le cœur, c'est la vie, c'est ce qui donne de mouvement à tout ça.
C'est l'intériorité.
Oui.
Et alors, en fait, il y a des études qui ont été faites un peu sérieuses pour voir si les expressions contenant le mot cœur sont présentes dans toutes les langues. Milliers de langues dans le monde. Et on s'est rendu compte qu'il n'y a pas forcément le mot cœur, mais qu'il y a toujours un rapport avec, on pourrait dire, la partie centrale, le torse de l'homme. Et c'est-à-dire, au fond, pour reprendre le langage biblique, la partie centrale, c'est quoi ? C'est le cœur avec le sang, la vie, comme tu le disais, François, et puis les entrailles. C'est-à-dire le cœur dans lequel sont situés dans la Bible à la fois les pensées, hein, pour nous, l'homme moderne, c'est plutôt le cerveau. Mais non, là, le cœur, les pensées, l'intériorité, ce qui vient du plus profond de moi, Jésus dit, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Hein. Le cœur, le courage aussi. Le mot courage, vous voyez, par exemple, le prénom Bernard, ça vient des peuples germaniques. Ber, c'est l'ours, et Hart, c'est le cœur.
Ah oui.
Hart. Et celui qui a du cœur, qui a du courage, le courage comme un ours, voyez. Donc un lieu de décision. Et puis les entrailles, évidemment, c'est ce qui donne la vie, c'est aussi les sentiments. Donc on fond toute cette partie centrale. Le cœur pourrait désigner au fond pas seulement un muscle qui donne la vie, qui transmet la vie, hein, pas de si le muscle s'arrête, hein, mais toute une intériorité qui est à la fois accueille les pensées de Dieu, les médite dans son cœur, voyez l'expression, je médite dans mon cœur, j'intériorise, et puis qui donne la vie par les entrailles. Alors ça, évidemment, c'est typiquement féminin. Hein,
c'est ce que j'allais vous dire, ça nous fait quand même penser au « Je vous salue Marie, Jésus, le fruit de vos entrailles est béni, et puis cette tendresse, voilà, les entrailles qui frémissent.
Et ce qui est intéressant, c'est que cet apanage que vous avez, vous, mesdames, hein, cet énorme avantage que vous avez, vous, les femmes, surtout les femmes qui ont évidemment enfanté, d'avoir porté pendant 9 mois, ou un peu moins, un petit homme, eh bien, en fait, ces entrailles, on les applique aussi à Dieu. On parle des entrailles de Dieu, Rahamin, dans la Bible, vous voyez, les entrailles de miséricorde. Dieu a un cœur maternel, au fond. Hein, vous voyez, j'utilise même le mot cœur pour parler des entrailles. Et puis, pour en venir à Jésus, hein, puisque on parle du sacré cœur de Jésus, et c'est Jésus qui, par son cœur, nous révèle le cœur de Dieu, on nous dit plusieurs fois dans la Bible que Jésus est ému et avec une expression très difficile à dire qui est en grec, hein, puisque l'évangile est en grec, qui dit que Jésus est ému dans ses entrailles. Il a mal au ventre, vous voyez, comme quand on a vraiment mal, j'ai mal pour toi.
Il est pris aux entrailles.
Il est pris aux entrailles. Et c'est une expression très, très forte. Vous voyez, cet élément féminin que l'on trouve en Jésus et en Dieu. Hein, et donc voilà une belle manière de mettre en regard, voyez, la tête, les mains, les pieds, le cœur, les entrailles.
L'amour et la tendresse.
Tendresse.
Si on parle de Jésus dans l'Évangile, François Duclos, quel passage vous plaît ou résonne en vous sur ce cœur de Jésus ?
Il y en a plusieurs.
Oui.
Mais apparemment, j'aurais quand même voulu vous donner mon témoignage pour vous dire qu'est-ce qui résonne en moi. Maintenant, ce qui résonne en moi, pour moi, c'est « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre
».
C'est ce qu'il y a dans Saint Jean. Et après, comment on peut exercer cette vérité ? Là, ça renvoie au cœur. Alors, je voudrais vous donner mon témoignage, parce que je ne suis pas arrivé tout de suite à cette réflexion. Moi, je suis originaire de Haute-Savoie. Ma grand-mère avait 3 frères prêtres et ils ont été d'origine paysanne. Et dans la ferme de mes grands-parents, il y avait des images, quand j'étais petit, qui m'impressionnaient, où on voyait un cœur entouré d'épines, avec une croix plantée dedans. C'était un peu sanguignolant, c'était dans un cadre avec les bords en argent. Et j'avoue que ça n'avait rien d'attirant, c'était même un peu désuet. Et donc, ça, c'était quand j'avais 7-9 ans. J'avais vu qu'il y avait donc un cœur entouré d'épines. Et puis après, quand j'ai grandi un petit peu, dans les années 70, l'Église en France n'appelait pas à la dévotion au cœur de Jésus.
Oui.
C'était même désuet. Jusqu'en 1986, où j'étais au service militaire, et le pape Jean-Paul II est venu à Paris-le-Monial. Et il a dit cette phrase qui m'avait... Donc moi, je le regardais à la télé depuis mon école d'officier, où il disait « Le cœur de Jésus, la dévotion au Sacré-Cœur, le message de parèlemonial sont plus que jamais d'actualité. » Et alors j'aimais beaucoup le... Enfin, je ne suis pas le seul, mais j'attachais beaucoup d'importance à ce que disait le pape Jean-Paul II. Parce que je l'étais allé le voir l'année d'avant, 1985, à Rome, aux premières journées mondiales de la jeunesse. Et il avait commenté l'évangile de saint Marc dans sa lettre aux jeunes, la parabole du jeune homme riche, enfin l'histoire du jeune homme riche, qui avait de grands biens et qui s'en était allé tout triste.
Parce qu'il ne voulait pas lâcher ses biens.
Il ne voulait pas lâcher ses biens. Alors moi, j'avais à peine 20 ans. J'avais perdu mon papa peu de temps avant. Ça avait été très dur dans la famille. Et donc, ma maman travaillait dur pour nous payer les études à ma sœur et à moi. Mais en dehors d'avoir l'argent pour les études, je n'avais rien. J'avais vraiment le nécessaire pour vivre. Je manquais de rien, mais je n'avais rien d'autre. Et quand j'avais lu cet évangile de saint Marc, je me dis, c'est bien, mais ce n'est pas pour moi. Et j'avais refermé la lettre de Jean-Paul II. Et puis, sur cette place Saint-Pierre, un soir, pendant les journées mondiales, il s'était adressé aux Français avec, comme il savait le dire, « Cher jeune !» Et il dit cette phrase qui me dit « Mais ta richesse, c'est ta jeunesse, donne-la au Christ. » Et là, j'ai vécu une conversion. Je me suis dit, effectivement, il ne fallait peut-être pas prendre le texte au premier degré, mais qu'est-ce qu'était ma richesse en moi à ce moment-là? Et donc, je suis revenu de Rome. J'ai vécu une conversion. Et j'aimais bien, enfin, j'attachais de l'importance à ce que disait le pape. Ce n'était pas une confiance, je dirais, aveugle, mais j'ai essayé de réfléchir à ce qu'on disait. Donc, quand il a dit ça par le monial, que ce message du Sacré-Cœur était plus d'actualité que jamais, je me suis penché sur le message de par le monial, ça depuis mon service militaire, et puis j'ai continué après. Qu'est-ce que ça voulait dire, le cœur de Jésus, aimer le cœur, et sachant que en France, et aussi dans le monde, on voit beaucoup de basiliques. Il y a la basilique du Sacré-Cœur à Montmartre, des églises du Sacré-Cœur comme à Toulouse, des collèges du Sacré-Cœur. Beaucoup portent ce titre. Et en fait, je n'avais jamais fait attention. Et donc là, le Père Pascal vient de nous rappeler un peu l'importance du cœur de Dieu. Moi, ce que j'avais vu en lisant un petit peu le message des apparitions de parèlemonial, c'est qu'en fait, le cœur... Parce qu'il pourrait... Pourquoi pas une dévotion au bras de Jésus, au cou de Jésus, à ses mains ben, en fait, le cœur nous dit... quelque chose de Dieu. En fait, le cœur nous dit qui est Dieu, et Dieu est amour. Et donc, en révélant son cœur, eh bien, Jésus révèle son amour à tous les hommes. Et c'est ça, un petit peu après, que j'ai essayé de... Qu'est-ce que ça voulait dire aimer Jésus, aimer son cœur? Et en fait, tout simplement, qu'est-ce que ça veut dire aimer dans ce monde qui a quand même beaucoup... qui n'est pas facile. Voilà. Alors, j'aime aussi, en étant ingénieur... Bon, on oppose des fois la science et la foi, là c'est pas du tout mon cas, mais la science a quand même des aspects positifs, c'est qu'elle nous oblige justement à rechercher la vérité, à comprendre, d'où cette parole que je vous ai séchée, vous rechercherez la vérité, et ça nous rendra libres. Et dans cette compréhension de ce qu'était le cœur, enfin, dans cette recherche aussi de l'histoire, quand vous regardez les apparitions de Jésus, c'est du cœur de Jésus à Sainte Marguerite Marie, c'est 1673-1675, donc c'est le règne de Louis XIV. Et la France, tous les sujets du roi sont baptisés. Bon, Louis XIV n'a pas encore révoqué l'édit de Nantes, donc il y a des catholiques, des protestants, mais tout le monde est baptisé. Et quand Jésus révèle son cœur, ben il dit « Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui en retour n'a reçu qu'ingratitude. » Donc parfois on pourrait avoir, et c'est ce que je me suis dit, mais tiens, finalement, des fois on est nostalgique d'une France entièrement chrétienne, baptisée, aujourd'hui les chrétiens sont plus majoritaires, mais n'empêche que dans ce siècle où la France était entièrement baptisée, Jésus dit, ben, voilà comment il faudrait m'aimer, voilà comment je souffre de ne pas être aimé au Saint-Sacrement.
Et on revient sur cette image de la Bible de Dieu, du cœur de Dieu qui est écorché, quel était le mot que vous utilisiez ?
Que Dieu est irrité dans son cœur, voilà. Et puis après, nous allons voir bien sûr sur la croix le cœur blé, transpercé de Jésus. Un peu cette image que tu as vue en Haute-Savoie, là, chez tes grands-parents, une image qui n'est pas très agréable, hein, un cœur couronné d'épines, donc on mélange, disons, l'aspect extérieur de la couronne d'épines, mais que l'on met sur le cœur pour bien montrer que cette couronne d'épines sur la tête de Jésus, c'est une couronne sur son cœur. Hein, c'est une... Alors, comme tu es scientifique, François, je me permets juste, et que des avantages de la science moi-même, hein, j'ai fait des études scientifiques, c'est la précision et la rigueur. tout le monde était baptisé, on pourrait dire, dans le royaume de France, il y avait quelques juifs.
Exact.
Et qui comptaient, et qui, tout heureusement, étaient des citoyens français, même si leur situation n'était pas forcément toujours enviable, mais ils avaient leur place. Et donc, voilà, et ils ont contribué à l'histoire de la France, puisque d'ailleurs, la première traduction de la Bible en français, c'est un juif de Troyes qui est très connu dans le monde juif, un rabbin, Rashi, hein, au XIIe siècle, si je me souviens bien, XIe, XIIe siècle. Donc, honneur soit rendu aussi à nos frères de confession juive.
Vous avez raison, Père Pascal. Je voudrais qu'on revienne un petit peu et on reprendra votre témoignage, François Duclos, si vous voulez bien, après, la suite. Je voudrais qu'on reparle de ce cœur de Jésus. Est-ce qu'on parle vraiment du cœur de Jésus dans l'Évangile ou est-ce qu'on parle plus généralement de son côté, de ses entrailles, comme vous disiez tout
Alors,
à l'heure?
Effectivement, si l'on regarde deux éléments, c'est Saint Jean hein, lui-même qui nous parle de ce qu'il a vu. Hein. Il a vu et il témoigne de ce côté, on n'utilise pas le mot cœur, hein, le côté transpercé de Jésus sur la croix par la lance du soldat. Et c'est là où, justement, là encore une fois, la science, mais la science historique nous aide. On sait comment le légionnaire romain, je crois, de la main gauche, avec sa lance transpercée, les études d'ailleurs sur le sensuaire ont, d'une certaine manière, confirmé ce qu'on savait par l'histoire. Et donc, finalement, cette lance a bien atteint, à travers les côtes, a atteint le cœur de Jésus, d'où jaillit le sang et l'eau. Et puis, Saint Jean nous dit, juste peu de temps auparavant, donc le jeudi saint au soir, qu'il penche sa tête sur le côté de Jésus, et à quel moment? Au moment de la trahison, et il a la révélation par Jésus lui-même qu'il allait être traduit par celui à qui Jésus donnerait la bouchée,
la première bouchée,
Judas. Et donc, dans un cas comme dans l'autre, c'est le côté. Mais évidemment, on devine qu'il y a un rapport avec le cœur, tout simplement parce que Jésus lui-même a ce langage du cœur. Et comme on l'a dit au tout début de la célébration,
Déformation
professionnelle, chers frères et sœurs. Nous voici rassemblés. Alors, Jésus dit lui-même, je suis doux et humble de cœur. Jésus lui-même parle de son cœur. Alors bien sûr, par exemple, dans l'évangile selon saint Matthieu, il va aussi dire heureux les pauvres de cœur. Donc le langage du cœur est vraiment dans la bouche de Jésus. Mais Jésus parle de notre cœur, heureux les pauvres de cœur, dans les béatitudes. Et puis il parle de son cœur. Je suis doux, c'est humble de cœur. Ce qui est extraordinaire pour un chef admiré. Tu es le plus beau des enfants des hommes, dit la Bible. Hein, mais heureux, heureux la mère qui t'a porté, qui t'a nourri. Vous voyez, Jésus, il suscite l'admiration. Et là, il dit, je suis doux et humble. Humble, ça veut dire, je me fais tout petit. Hein, je ne suis pas le grand chef, je ne suis pas le roi soleil. Apparition du Sacré-Cœur de Jésus à l'époque où Louis XIV crée tout un culte au roi soleil, à sa fonction. Hein? Eh ben non, Jésus, lui, il fait pas un culte de sa personne. D'ailleurs, à un moment, il dit, mais tu m'appelles bon, un homme qui... Mais seul Dieu est bon, c'est-à-dire, il veut pas qu'il y ait une idolâtrie, que l'on se trompe, il veut pas être une superstar. Quoi.
Il veut pas être une superstar, mais à côté de ça, il y a quand même cette dévotion au Sacré-Cœur. Donc ça veut bien dire que... On lui rend hommage.
Et alors justement, ouais. J'étais très heureux d'entendre François nous faire un petit rappel de son expérience personnelle, la venue de Jean-Paul II à Paray-le-Monial. Ouais. Et j'ai eu la chance, je suis prêtre du diocèse de Cahors, d'avoir été ordonné par Mgr Maurice Guédon, qui était donc évêque de Cahors, quand j'ai été ordonné il y a 30 ans cette année. Et Mgr Guédon avait été... supérieur des chapelains, c'est-à-dire il s'occupait du sanctuaire de Paray-le-Monial au moment où le pape est venu. Et il m'a raconté comment en 1975, on fêtait les 300 ans de ces fameuses apparitions du Sacré-Cœur.
Cette année, 350e anniversaire.
350e, parce que, comme vient de nous rappeler François, les grandes apparitions, c'est en gros entre 1673 et 1675. Donc, 300 ans après, voilà. les célébrations du Sacré-Cœur à Paray-le-Monial, 1974-75, au moment où arrive Mgr Guédon, qui était déjà évêque, et qui me dit « J'ai vu venir des gens du monde entier, des évêques du monde entier, et je n'ai vu venir que deux évêques français. » Et l'un de ces deux m'a dit « Surtout ne dites pas que je suis venu. » C'est dire à quel point le Sacré-Cœur, la dévotion au Sacré-Cœur était mal vue. Il y avait une espèce de honte, soit parce que ça paraissait trop mièvre, vous savez, les images, ce qu'on appelle les chromos, avec beaucoup de couleurs, avec un Jésus, avec un regard un petit peu, pas très viril, vous voyez,
un peu douceâtre.
Et qui, attention, des images qui plaisent, et qui, dans le monde entier, qui sont répandues. Vous verrez ça dans des familles, dans des favelas, dans des bidonvilles. Bon,
hein. Oui. Et comme disait François Duclos, cette image du Sacré-Cœur avec un cœur avec une couronne d'épines, ça n'est pas non plus très attirant.
Voilà, et donc il y avait un mélange à la fois de côté douceâtre, doucereux, et un côté doloriste. Or, on aimait plutôt, on pourrait dire, après la guerre, les Trente Glorieuses, on aimait l'action. Hein, moi, je faisais partie, à ce moment-là d'ailleurs, je faisais partie, au moment des 300 ans, de l'action catholique. On était généreux, on avait plein d'idées, on voulait transformer le monde, parfois même avec des idées un peu révolutionnaires ou carrément révolutionnaires. Et donc, cette espèce d'intériorité, de cœur à cœur, c'est le cas de le dire, ça paraissait... au fond...
accessoire, finalement.
Oui, et puis même peut-être presque réduire l'homme à une intériorité alors qu'on voulait conquérir le monde. Il y avait au fond un côté très masculin dans cette vision de l'Église conquérante.
Oui, du combat.
Isabelle.
Mais en fait, je vous propose qu'on s'arrête déjà quelques instants. On va écouter « Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes » d'après les écrits de Saint Jean Eudes et mis en musique évidemment par la communauté de l'Emmanuel.
Comme roi et refuge d'un
présence. Vivante Église, Isabelle Duché.
La dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, d'où vient-elle? Comment la vivre au quotidien? C'est la réflexion que nous vous proposons aujourd'hui dans Vivante Église avec le père Pascal Fagnier et François Duclos, tous deux membres de la communauté de l'Emmanuel. Nous allons revenir un petit peu sur ces apparitions dont vous avez parlé, François Duclos, l'apparition du Sacré-Cœur, du Christ à Sainte Marguerite Marie à la Coque. C'était dans les années 1674 à Paray-le-Monial. Jésus lui montre son cœur. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette apparition et puis évidemment sa signification, et puis après on verra concrètement ce que ça signifie aujourd'hui.
Bien, vous racontez Marguerite Marie, ben moi je vais vous rapporter ce qu'elle dit.
Oui.
D'accord. Donc il y a eu trois grandes apparitions, et dans la deuxième, elle dit d'abord « Ce fut alors qu'il me découvrit les merveilles inexplicables de son pur amour et jusqu'à quel excès il l'avait porté d'aimer les hommes. » Ça, c'est la deuxième apparition dans son autobiographie. Et puis la troisième, c'est celle qui est la plus connue, enfin celle dont on voit aussi, quand on va dans la chapelle des apparitions, apparaît « Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes qu'il n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser et se consommer pour leur témoigner son amour. » Donc il faut reprendre le message dans le texte. Je vous disais tout à l'heure que le cœur nous révèle la personne de Jésus, puisque Dieu est amour, et donc le cœur nous dit l'amour de Dieu pour nous, l'amour de son cœur. Et donc cette dévotion, puisque Marguerite Marie était une visitandine, donc elle vivait la clôture, donc elle n'a pas pu aller dans la rue et dire ben, « Jésus m'a révélé son cœur ». Et puis voilà, ben, et donc elle s'est appuyée sur son confesseur, le père Claude Lacolombière, jésuite, qui lui aussi avait compris que, mais ça le père Pascal Panier en reparlera, mais il avait compris qu'auprès de Marguerite Marie, il aurait aussi une mission. Et donc, Marguerite Marie qui se dit bon, « Ok, tu me demandes de propager ce message, comment ça va se passer ?» Il lui dit « Je t'enverrai mon parfait serviteur, mon parfait ami. »
C'est ce que dit Jésus à Marguerite Marie, qui ne peut pas sortir de son monastère.
Et Claude Lacolombière va arriver, jésuite, et les jésuites, notamment au cours du XIXe siècle, vont propager ce message dans le monde. D'où les références, le Sacré-Cœur, la Basilique du Sacré-Cœur, etc. Alors après, on fait beaucoup de références historiques, effectivement, et je vous disais, moi, que j'avais vécu une conversion à Rome, puis en écoutant le pape à Paray-le-Monial, et concrètement aujourd'hui, parce qu'on pourrait toujours, même si on voit ces images un peu désuètes différemment, puisque le message reste d'actualité, qu'est-ce que ça veut dire? Donc pour moi, après 1986, je suis rentré du service militaire, j'ai commencé à travailler. Et puis j'ai cheminé avec la communauté de l'Emmanuel, où j'ai passé plusieurs étapes humaines, dont le discernement de vocation, qui était pour les garçons. Et puis aussi, la communauté s'était vue confier par les chapelains de Paray-le-Monial, depuis 1975, sont membres de la communauté de l'Emmanuel. Donc en fait, la communauté de l'Emmanuel anime le sanctuaire.
Mm-hmm. Voilà.
À Paray-le-Monial, avec des sessions chaque été, auxquelles je suis allé depuis 1981. 7, et j'ai compris, j'ai approfondi ce message de Paray. Alors très concrètement, ben déjà en 92, je me suis marié à Paray-le-Monial, voilà, donc dans la basilique, et avec le Sacré-Cœur. Ensuite, quand nos enfants sont nés avec mon épouse, au bout d'un certain temps, on les a consacrés au cœur de Jésus.
Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire justement, consacrer ses enfants au cœur de
consacrer,
Jésus?
Consacrer, ça veut dire étymologiquement, c'est rendre sacré, et c'est-à-dire c'est prendre conscience de ce qu'est le... c'est l'importance de cet amour de Dieu. Alors, c'est pas de nouveau, c'est bien évidemment, des fois dans la consécration au cœur de Jésus, il y a eu celle de Toulouse, on demande à Dieu de nous. Il y a des aspects très précis de nous préserver du mal, de nous préserver des flèches du mauvais. Bon, le démon existe, enfin, le démon est toujours là, même si on en parle moins. Donc, il y a cet aspect-là. Et puis, ce cœur nous apprend à aimer. Et ça, c'est, à mon avis, c'est très difficile aujourd'hui parce que on n'excuse plus rien, enfin on ne pardonne plus aux personnes, mais on excuse tous les actes au nom de la liberté, de la tolérance, toutes ces valeurs sont bonnes.
Sans discernement du bien et du mal.
Sans discernement du bien et du mal. Or ce cœur nous apprend à aimer, ce qui suppose aussi...
De façon juste alors.
Voilà, et je recite, vous voyez Jean-Paul II en 86, il s'agit d'avoir un cœur de chair qui soit capable de réagir avec justesse au bien et au mal. Donc bien évidemment de savoir nommer le mal, de le comprendre, et puis de ne pas réagir avec les armes du mauvais dans les situations où justement le mauvais est intervenu.
Donc vous, en tant que père de famille, finalement, ça vous aide dans l'éducation de vos enfants, cette dévotion au Sacré-Cœur, pour avoir un regard juste sur ce que vous pouvez dire à vos enfants pour les conduire vers le bien.
Pour commencer, pour parler du père de famille, d'abord, on est époux. Donc ça commence déjà dans l'amour du couple. On apprend à s'aimer, à se pardonner. On peut avoir des très grands élans d'amour. Et puis des jours, ça peut être plus difficile. Et bien là, on puise sans arrêt dans ce cœur qui est blessé par le coup de lance à travers le côté et qui reste l'eau qui continue et les sangs qui jaillissent. Et ça, c'est très quotidien pour se pardonner, pour... peut-être tout bête, mais enfin des fois je vais faire les courses, j'invoque pas le cœur de Jésus, mais c'est des actes d'amour qu'on pose, ou qu'est-ce qui pourrait faire plaisir à son conjoint. Et puis c'est surtout, je reparlerai des enfants après, mais c'est aussi beaucoup dans le travail, où aujourd'hui, quelle que soit son entreprise, on sait qu'on a une pression économique, on a des objectifs à atteindre, il y a de la compétition entre nous. Et quelle est la juste ambition qu'on peut avoir sans nécessairement écraser les collègues, et en les respectant, et ultimement en les aimant. Alors, c'est les aimer, mais ce n'est pas nécessairement se jeter les bras dans les autres, mais c'est finalement, je parlais du respect, mais aussi de les aider. Vous voyez, quand on voit un collègue qui est en difficulté, soit sur une tâche, soit humainement, on essaie d'aller le voir, on parle. Alors, des fois, on annonce clairement, on peut annoncer explicitement le Christ, puis des fois, c'est plus masqué, vous voyez. Et puis les enfants, ça a été aussi de leur transmettre. On veut les aimer, on veut les éduquer à l'amour. Mais une fois, si on veut aller plus loin que les mots, il faut poser des actes. Et là, cet amour du cœur de Jésus nous aide, justement. Et puis les enfants, pardonnez-moi l'expression, mais ils peuvent aussi nous casser les pieds.
Vos enfants aussi, chez vous?
Des fois, on voit toutes ces images un peu toutes faites. Vous savez, les revues qu'on aime, que je lis chez le coiffeur une fois tous les deux ou trois mois. On voit des personnes qui s'unissent là et puis qui disent... Et puis on voit la femme qui est enceinte et le futur enfant va sceller leur amour. Mais on dit attention, un enfant, ça peut faire... De nouveau, ça peut casser un couple si les parents ne sont pas prêts. Donc il y a aussi cette difficulté aussi et cette justesse de remettre l'enfant à sa place pour qu'il grandisse justement en responsabilité et en aimant.
Et donc cette dévotion au Sacré-Cœur finalement vous aide à remettre les choses en place, d'abord l'amour conjugal et puis ensuite votre rôle d'éducateur et de parent aimant vis-à-vis de vos enfants.
C'est ça. C'est très concret en fait. C'est très concret. Et c'est jamais fini. Vous voyez, l'eau coule du cœur de Jésus, c'est une source qui ne se tarit pas.
Qui ne se tarit pas, oui.
Et donc, le message est toujours à approfondir et on peut puiser, je dirais, de manière infinie dans ce cœur pour continuer à aimer en étant dans le monde, sans être de l'esprit du monde.
Oui, c'est ça. Et puis sans compter uniquement sur ses propres forces, ce qui serait désespérant. Père Pascal Fanier.
Oui, François vient de parler de se consacrer au Sacré-Cœur. On a évoqué évidemment cette messe de consécration de la ville de Toulouse et du diocèse au Sacré-Cœur. La consécration au Sacré-Cœur, c'est directement lié à notre baptême, c'est pas rajouter quelque chose dans nos vies, c'est en fait mieux vivre le baptême. Parce que le baptême, c'est notre consécration. Notre consécration, par le baptême, nous sommes consacrés à Dieu. Nous sommes unis à sa croix. Nous, comme le dit saint Paul, nous mourons avec lui et nous ressuscitons avec lui. Et pas de manière symbolique, de manière réelle. Nous sommes unis à Jésus d'une manière configurée à Jésus, dit la Bible, d'une manière inouï, et on ne méditera jamais assez ce que nous avons reçu au baptême. Et en fait, consécration personnelle ou consécration comme ça collective, parce qu'il y a une dimension sociale, que rappelait le cardinal Aveline qui est venu il y a pas très longtemps cette année à Paray-le-Monial, justement à l'occasion des fêtes du Sacré-Cœur, des 350 ans. Il est venu parce que son diocèse de Marseille a été le tout premier diocèse consacré au Sacré-Cœur en 1720 par Monseigneur Belzunce. Et donc, pour en revenir à la consécration personnelle, c'est au fond, consécration au Sacré-Cœur, c'est vivre notre baptême. C'est pas rajouter quelque chose à notre baptême. C'est mieux vivre. Vous voyez, c'est pas de l'ordre du plus, mais de l'ordre du mieux. Prendre plus au sérieux. On pourrait dire, on peut utiliser beaucoup de mots, mais être renouvelé dans notre vie baptismale. Et du coup, on retrouve cette parole d'Ézéchiel, de Dieu, à travers Ézéchiel. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de vous le cœur de pierre et vous donnerai un cœur de chair. C'est-à-dire le lien entre le cœur et l'esprit. Hein. Le baptême, c'est une vie spirituelle où je suis sensible aux motions, aux inspirations de l'Esprit-Saint qui parfois vont contredire mes mouvements naturels. Hein. Ah non, l'Esprit-Saint va me pousser à faire des choses que j'aurais jamais imaginées. Mais tout cela, c'est l'Esprit qui vient toucher un cœur et une vie concrète. Hein, une vie charnelle, concrète, tu as évoqué, hein, merci François, des aspects très concrets de ta vie d'époux et de père de famille. Et donc, voilà, ce que je viens de dire là, c'est de mettre le lien entre le baptême et le cœur de Jésus et la consécration au cœur de Jésus. Hein. Et d'ailleurs, tu as cité aussi, François, plusieurs fois, là, depuis le début de l'émission, cette parole de Saint Jean, Dieu est amour. Cette parole-là, c'est dans la première épître de Saint Jean, au chapitre 4, la première lettre de Saint Jean. C'est un sommet, si vous relisez ce chapitre 4, c'est un sommet. C'est là où il nous dit « aimez-vous les uns les autres ». C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on verra que vous demeurerez en Dieu. Voilà, votre amour. L'amour de Dieu atteindra en vous sa perfection. Dans cette union du cœur humain au cœur de Dieu, il y a aussi un désir de perfection. Donc il y a bien une ambition, mais une ambition qui ne passera pas justement uniquement par les mains, par les pieds, par la tête. Hein, une ambition qui passera au fond par tout l'être, parce qu'on pourrait dire tout notre être se résume ou se... est symbolisé par le cœur, au fond. Hein. Le cœur, ce n'est pas une réduction de l'homme à son cœur, c'est plutôt montrer que le cœur est comme le centre de la vie de la personne qui embrasse toute sa vie personnelle, conjugale, familiale et même sociale. Hein. Ça, c'est, autrement dit, ce n'est pas seulement entre Jésus et moi.
Oui, c'est ça. Hein. Oui.
Et c'est là qu'interviennent les jésuites. On sait, nous avons le premier pape jésuite de l'histoire, François. On sait que les jésuites, l'intuition de Saint Ignace de Loyola, c'était un homme vraiment dans le monde. Il veut parler pas seulement aux religieux, c'est-à-dire aux hommes consacrés, aux hommes, aux femmes consacrées, aux prêtres, aux religieux, aux religieuses. Il veut parler à tous les hommes. Il crée ce qu'on appelle les exercices spirituels. Hein, et il veut que même des femmes mariées puissent vivre les exercices spirituels sans aller... dans un monastère faire, mais que ça puisse être fait à la maison ou chez un voisin, vous voyez. Il veut vraiment pour tout le monde. Et donc, les jésuites, là, Dieu, à travers Sainte Marguerite Marie et donc son confesseur, confie aux jésuites cette mission de proclamer le cœur de Jésus. Et il est intéressant de nous rappeler ou d'apprendre, hein, chers auditeurs, que le pape Jean-Paul II, lorsqu'il est venu en octobre 86 à Paray-le-Monial, il convoque le général, dans le grand chef des jésuites qu'on appelle parfois le pape noir, parce qu'il a une telle autorité, une telle influence dans le monde, et il est habillé en noir, c'est pour ça. Le général des jésuites, il qui était en tournée en Amérique latine, il le fait venir à Paray-le-Monial et solennellement, il lui remet une lettre en lui disant: je vous confirme la mission que vous, jésuites, je vous confirme la mission que le Seigneur vous a donnée de propager cette dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. Et cette année, donc 37 ans après la visite du pape, le général des jésuites lui-même, alors il n'a pas eu besoin d'être convoqué par le pape, il est venu à Paray-le-Monial, évidemment c'est un successeur, il est venu à Paray-le-Monial. Et il a à nouveau repris cet engagement des jésuites à développer cette dévotion qui, en fait, puisqu'on a évoqué Saint Jean, elle ne date pas de Sainte Marguerite Marie. Saint Jean nous parle du cœur, Saint Matthieu nous parle du cœur, Dieu dans l'Ancien Testament nous parle du cœur. Cette dévotion, c'est une des manières, heureusement qu'il y a d'autres manières, bien sûr, de rencontrer Dieu, hein, mais c'est une des manières de découvrir que Dieu est amour et d'en vivre, quoi.
Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci, Père Pascal Fagnier, prêtre de la communauté de l'Emmanuel, et François Duclos, laïc et membre de cette même communauté.
Merci.
Merci Isabelle.